Europe 1. 15h, 16h sur Europe 1.
Il est difficile de savoir ce qu'on est.
À cette hauteur, il est trop seul pour pouvoir se confier.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Tu me parles le cœur, hein?
Oh, alors César.
À César, tu me parles le cœur.
Oh, voilà dans le mystère percé. C'est d'amour qu'il s'agit.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Comme chaque jour à 15h et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée, ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte un homme de guerre, doublé d'un homme d'État qui a avancé dans les pas d'un roi qu'il connaissait depuis toujours et qu'il a servi comme personne. Sans jamais protester, lui qui était pourtant protestant, ou la véritable histoire du duc de Sully, le fidèle ministre d'Henri IV. Comment expliquer son ascension fulgurante? Quelle action ce grand cumulard a-t-il mené aux côtés d'Henri IV? Comment a-t-il contribué au mythe henricien et construit sa propre légende? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir un historien qui lui consacre une nouvelle biographie. Bonjour, Laurent Avzou.
Bonjour Stéphane Bern.
Laurent Avzou, près de 4 siècles après sa mort, quelle est la place de Sully, principal conseiller d'Henri IV, dans la mémoire collective? Et au fond, qu'incarne-t-il?
J'ai envie de dire qu'il n'en a presque aucune et qu'il est injustement oublié par rapport à d'autres plus illustres ministres comme Richelieu ou Mazarin. En fait, dans la mémoire vive, on ne se souvient que d'une citation. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Je l'ai déjà entendu dire il y a peu à un responsable syndical pendant les événements qui touchent nos campagnes actuellement. Mais on ne la rapporte pas toujours à Sully. Alors que le personnage est beaucoup plus polyvalent que ce que suggère cette courte citation, qu'il a d'ailleurs écrite sans y accorder plus d'importance que cela. Sully, à bien des égards, est le précurseur des grands cardinaux ministres qui lui ont succédé aux affaires.
Vous publiez Sully, bâtisseur de la France moderne aux éditions Talendier. On va continuer à en parler ensemble, Laurent Avzou, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes le 1er août 1589. Il est aux alentours de 8h du matin, lorsqu'Henri III commence une journée qui s'annonce chargée. Son premier visiteur est un simple moine, Jacques Clément, un dominicain qui se dit chargé de lui remettre un message confidentiel du président du Parlement de Paris. En fait de lettre, c'est un poignard que Jacques Clément sort des plis de sa robe. Ce fidèle du duc de Guise n'a jamais pardonné au roi le meurtre du fameux Balafré 8 mois plus tôt. La lame s'enfonce dans le ventre du roi, qui la retire dans un réflexe en s'écriant « Méchant moine, tu m'as tué !» Clément meurt sur place, abattu par les gardes d'Henri III, mais ce dernier ne s'est pas trompé. Touché aux intestins, le roi meurt le lendemain, avant l'aube. Cet attentat réussi contre le dernier des Valois projette le royaume dans une situation inédite. Depuis la mort de son frère François, Henri III n'a plus d'héritier direct. L'héritier légitime d'Henri III n'est autre que son cousin et beau-frère, un autre Henri, un Bourbon, qui est déjà roi de Navarre, mais qui est surtout le chef incontesté du camp protestant. Celui que l'on surnomme le Béarnais devient bien roi de France sous le nom d'Henri IV, mais cette France catholique n'est pas prête à l'admettre, et c'est un euphémisme. Un peu plus tard, ce 2 août, Maximilien de Béthune, baron de Rosny, apprend la nouvelle. Elle tombe mal pour le tout jeune trentenaire. Son épouse Anne vient à peine de mourir quelques semaines plus tôt. Mais si éploré qu'il soit, le jeune veuf sait que la raison d'état l'emporte sur le deuil parce que c'est son maître de toujours qui vient d'accéder au trône. Et comme Henri IV, le baron comprend que la partie n'est pas jouée. Henri IV est roi, oui, certes, mais son assise est plus fragile que jamais dans un pays miné par les guerres de religion. Et son serviteur, qui n'est donc encore que baron, mais que la postérité connaît comme duc de Sully, est bien placé pour le savoir. Que le serviteur et son roi fassent la même analyse n'a rien de surprenant. Les deux hommes se connaissent depuis bien longtemps, et leur rencontre est à jamais liée à l'un des événements les plus dramatiques de l'interminable série de guerres civiles qui oppose le camp catholique et le camp protestant, ces huguenots fidèles à la prétendue religion réformée, comme on dit chez les catholiques. À l'été 1572, Henri de Navarre avait 18 ans et Maximilien de Rosny 13 à peine. Mais leur longue histoire commune s'est comme soudée le jour de la Saint-Barthélemy. Le 18 août 1572, il y a du beau monde sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour un mariage dont pas grand monde ne veut pourtant, à commencer par les mariés. Après des années d'une guerre de religion qui épuise le pays, leur union se veut un signe de concorde. La cérémonie n'est jamais qu'une union de circonstances entre le camp catholique, celui de Charles IX et de sa sœur Marguerite, et le camp protestant, celui d'Henri, roi de Navarre. Mais partout dans Paris, la tension est palpable. Dans les paroisses les plus acharnées, on s'étrangle devant, je cite, « cet exécrable accouplement entre une princesse royale et ce diable de Huguenot ». La ville n'a rien pardonné des guerres, des sièges et des vendettas. Plongé dans ce nid de vipères à 18 ans, le malheureux roi de Navarre n'a pas beaucoup d'amis, mais il peut compter sur les gentilshommes à son service. Maximilien de Rosny, le futur Sully, fait partie du nombre. Le petit page est encore tout jeune, 13 ans à peine donc, mais sa vive intelligence fait qu'on l'a déjà repéré. Le jeune homme sert Henri de Navarre tout en bénéficiant de l'éducation classique d'un adolescent de son rang. La lecture des grands auteurs, un peu, mais surtout l'équitation et le maniement de l'épée, de la pique, de l'arquebuse. Au soir du mariage de son maître, le futur Sully entend une rumeur qui gronde. Bien inspiré, l'adolescent comprend que quelque chose est en train de se tramer. Il quitte son logement et son hôte, un bon catholique que la présence du jeune protestant rend nerveux. Dans les rues, partout des cris, de l'affolement, des hommes et des femmes traînés de chez eux dans la rue, frappés à coups de gourdin, poignardés jusque sur le seuil de leur maison. Paris est un piège dont on a refermé les portes. La Saint-Barthélemy commence, et dans cette nuit d'horreur où on tue, on étripe et on massacre, Sully s'en sort par miracle, sauvé semble-t-il par un petit livre d'heures catholique, emporté par prudence. Sully se réfugie au collège de Bourgogne, où on le met à l'abri. Il y demeure un an. Au lendemain du massacre, le baron lui ordonne de rester au service de son maître Henri de Navarre, sauvé par son mariage. Pris au piège, prisonnier d'un Louvre où chaque rencontre cache un traquenard, le Béarnais compte ses fidèles sur ses doigts. Maximilien de Rosny est toujours là. 4 ans plus tard, en 1576, quand Henri de Navarre profite d'une partie de chasse en forêt de Senlis pour échapper à ses gardes du corps, rejoindre ses terres et prendre la tête du camp protestant, Maximilien est encore là. Tandis que la guerre reprend, le jeune homme n'a plus un sou vaillant. Ses biens ont été saisis, c'est à son frère aîné que revient le titre de baron et les revenus qui vont avec, mais qu'importe. Déjà, le futur Sully fait feu de tout bois et parvient à surnager. Mieux, il parvient à aider le Béarnais qui a autant besoin d'argent que d'hommes. En 1585 et en 1586, ce débrouillard parvient à financer l'achat de poudre et de munitions pour les troupes de son maître. En 1589, lorsqu'Henri devient roi de Navarre et de France, la situation n'est pas plus simple, bien au contraire. Pour occuper son trône, Henri pourrait se convertir, mais c'est encore hors de question. Non seulement ses convictions personnelles s'y opposent, mais cela reviendrait à se couper de ses soutiens protestants, donc à s'affaiblir face au parti des catholiques purs et durs, emmené par les Guises. Avant de trouver une issue politique, la solution ne peut être que militaire. Dans les preuves qui s'engagent, Maximilien de Rosny s'illustre. Même si l'historien Laurent Avzou, notre invité cet après-midi, tient à rappeler dans la biographie qu'il vient de lui consacrer que le futur Sully s'est sans doute un peu vanté dans les écrits qu'il a laissés, même s'il a exagéré son rôle, le baron tient son rang, celui d'un homme d'épée. À la bataille d'Ivry en 1590, le jeune homme est déjà un paroudeur aguerri, positionné sur l'aile droite du roi, celle qui supporte le plus gros de l'attaque des ligueurs. Si l'on en croit Sully, il aurait vu mourir 2 chevaux sous lui ce jour-là, avant de finir par rejoindre son roi tout sanglant, lardé de coups d'épée et frappé d'une balle à la cuisse. Que Sully ait oui ou non exagéré, la bataille est gagnée, mais pas la guerre. Pour parvenir à la paix, Henri IV se résout alors à ce qu'il qualifie de sot périlleux dans une lettre à sa maîtresse Gabrielle d'Estrées. Sa conversion se concrétise en juillet 1593 à Saint-Denis, autant dire sous les murs de la capitale. Après tout, Paris vaut bien une messe, pour citer une formule fameuse, qui n'est d'ailleurs pas du roi, mais de son fidèle serviteur et conseiller, sous une forme un peu différente. Dans une lettre, le futur Sully écrit avec une franchise désarmante « Sire, Il ne faut plus tortignonner. Vous gagnerez plus en une heure de messe que vous ne feriez en 20 années de péril et de labeur. Le conseil est bon. Henri de Navarre abjure sa foi protestante et Paris ouvre enfin ses portes. Son loyal serviteur, lui, n'absout rien du tout. Au moment où Henri IV a fermé enfin sa place sur le trône, le futur duc de Sully reste fidèle à sa foi protestante et au roi aussi. Le fidèle parmi les fidèles doit pourtant ronger son frein avant d'en être récompensé. Au tout début de son règne, Henri IV doit souvent négocier avec d'anciens adversaires pour mieux se les rallier. Le malheureux conseiller voit quelques jolies charges du passé sous le nez, comme le gouvernement de Mantes. Le coup est rude, humiliant même. Le roi la confie à son frère Salomon, un bon catholique qui s'échine à déshériter son cadet depuis des années. L'année du sacre, en 1594, le futur Sully entre au conseil de direction des affaires et finances. 2 ans plus tard, Henri IV l'intègre au conseil des finances tout court, plus puissant, et surtout au conseil des affaires, un cercle restreint où se décide la politique étrangère du royaume. À 36 ans, le baron de Rosny se retrouve enfin au cœur de l'État. Et son ascension va y être fulgurante. Après 40 longues années de guerre de religion, tout est à rebâtir. Et Henri IV pourrait faire sienne la formule de Rabelais « Faute d'argent, c'est douleur sans pareil ». D'autant que les dépenses augmentent. À elle seule, la soumission des Guises a coûté 4,5 millions de livres à une époque où l'État n'en perçoit que 10 millions chaque année. Qu'à cela ne tienne, Sully s'empare du problème avec la rudesse d'un homme d'épée que personne ne s'est jamais donné la peine de former aux grandes lois de la finance et de l'économie, mais qui se révèle pourtant très doué. Sully saisit toutes les occasions, quitte à faire montre d'une brusquerie d'homme d'épée qui éclate dès sa première grande mesure en 1596. Cette année-là, en effet, le roi fait vérifier les comptes des receveurs généraux, des officiers qui se chargent de percevoir un impôt célèbre, la taille. Convaincu que ces receveurs sont de parfaits escrocs qui se payent sur la bête, Sully écume le territoire qu'on lui confie, le Val-de-Loire. Il rafle tout ce qu'il estime être dû et revient à Paris avec 300 000 écus dans les poches, ou plutôt dans les dizaines de tonneaux qu'on ramène à Paris dans un long convoi de charrettes protégées par des archers. Il faut 36 heures pour les décharger et le roi est ravi. Sully a fait ses preuves et on le retrouve désormais sur tous les fronts. Administrateur hors pair, surintendant des finances, surintendant des fortifications et des bâtiments, grand voyer de France, c'est-à-dire responsable des ponts et chaussées, Sully cumule les charges, il cumule aussi les titres. En 1601, le baron de Rosny devient marquis de Rosny, puis donc duc de Sully, en 1606. Mais si Sully est resté dans la mémoire collective, c'est pour une formule célèbre. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. La citation exacte, qui est bien de Sully, mais dans une forme un peu différente, précise qu'il s'agit là des vraies mines et trésors du Pérou du royaume. À une époque où la France tente quelques poussées du côté du Québec, la phrase n'est pas neutre. Sully ne sera jamais vraiment convaincu par le potentiel de ce lointain nouveau monde. L'attention accordée aux campagnes est d'autant plus réelle que le roi la partage avec lui et qu'elle s'inspire de la publication en 1600 du Théâtre d'agriculture et ménage des champs d'Olivier de Serres. L'impulsion est donnée. Partout dans le royaume, on plante des vignes et des arbres fruitiers, on augmente le cheptel, on laboure les terres en friche, on assèche des marais et on fait planter des milliers de mûriers, l'arbre du ver à soie. L'œuvre économique de Sully ne se limite pas à l'agriculture, qui se penche aussi sur l'industrie naissante, des fabriques de poterie aux faïenceries, en passant par les cristalleries. Le travail se modernise dans les mines de fer et de charbon, mieux exploitées. Comme grand voyer de France, Sully s'attache à remettre en état les routes du pays et fait planter une grande quantité d'ormes le long des grands axes, des arbres destinés à de futurs chantiers navals. Comme surintendant des fortifications, Sully renforce les frontières et fait agrandir l'arsenal installé en plein Paris par Charles IX entre la rive droite de la Seine et la Bastille. Comme capitaine des canaux, il fait percer plusieurs nouvelles voies navigables et lance notamment le chantier du canal de Briare entre la Seine et la Loire. À Paris, sa politique de grands travaux a laissé des traces encore visibles. La place des Vosges, l'agrandissement du Louvre et les Tuileries, c'est lui. L'homme a pourtant ses paradoxes. Sully est un adversaire déclaré de la gabelle, un impôt sur le sel qu'il considère comme la taxe la plus injuste qui soit, ce qui ne l'empêche pas de l'augmenter régulièrement. Et quitte à rester dans le domaine des taxes, il en invente une nouvelle, la Paulette. Elle est en théorie facultative, bien sûr, mais comme elle permet aux officiers qui la payent de transmettre leurs charges à leurs héritiers, elle rencontre un succès certes contraint, mais indéniable. La méthode Sully est parfois brutale, mais l'efficacité prime. Ce pragmatisme, dont le fidèle d'Henri IV s'est fait une règle, fait que les finances françaises ne se sont jamais aussi bien portées qu'avec lui. Les dépenses sont assurées, les budgets en équilibre, et le trésor public est même bénéficiaire en 1605 avec des réserves de trésorerie qui dépassent 15 millions de livres. En 1610, le couteau d'un géant roux va pourtant briser net l'incontestable élan que le principal ministre d'Henri IV a su donner au royaume. Le 14 mai 1610, Sully ne va pas fort. Son état inquiète assez Henri IV pour que ce dernier décide de traverser tout Paris pour le rejoindre. Le trafic est comme d'habitude intense et le convoi royal progresse difficilement à travers les encombrements de la petite rue de la Ferronnerie au cœur des Halles, quand tout à coup surgit de la foule un colosse aux cheveux roux. L'homme se précipite alors sur la voiture et porte trois coups de poignard au roi. Le premier l'atteint près de l'aisselle, le dernier se perd dans la manche du duc de Montbazon, mais le deuxième ne pardonne pas. Touché au poumon, l'aorte droite sectionnée, Henri IV meurt dans la voiture qui le ramène au Louvre. Depuis l'arsenal, Sully apprend vite que le roi était touché. Malgré son état, le ministre se précipite d'abord vers le Louvre, mais les messages qui lui parviennent en chemin ne lui laissent hélas plus d'espoir. Henri IV est bien mort. À 20 ans d'écart, la France vient de perdre un deuxième souverain d'affilée dans un attentat au couteau. Sully, lui, perd un maître qu'il servait depuis bientôt 40 ans. On ne peut évidemment pas deviner ce qui se passe dans l'esprit de Sully, mais ce qu'on sait, c'est qu'il fait alors demi-tour. Un choix curieux. Après tout, la reine Marie de Médicis, désormais veuve d'Henri IV, l'attend en personne au Louvre avec le nouveau roi Louis XIII, un enfant qui n'a pas 10 ans. Sully est bien placé pour savoir que l'attentat plonge la France dans une nouvelle période de turbulence. Alors pourquoi le ministre ne va-t-il pas rendre hommage à la reine? Pourquoi renonce-t-il à aller s'incliner devant la dépouille du roi, ce maître dont il était si proche depuis si longtemps? La réponse est complexe. Peut-être Sully a-t-il craint d'être à son tour, victime d'un attentat dont on ne sait rien encore. Acte isolé ou complot, le fidèle peut tout envisager, y compris l'idée qu'on s'attaque au serviteur après avoir tué le maître. Dans un Paris qui bruise des rumeurs les plus folles, Sully se réfugie à l'arsenal. Il faudra une nouvelle missive de la reine pour que le surintendant décide enfin de se risquer du côté du Louvre. Peut-être entrevoit-il déjà la suite. En perdant le roi, Sully a perdu l'homme qui avait fait de lui le ministre le plus puissant de France. Mais la brutalité de l'homme de guerre n'a jamais disparu chez Sully, même après 12 ans passés au sommet de l'État. Ses brusqueries et sa froideur lui ont valu des rancœurs, que ses incontestables qualités ne compensent pourtant pas. La disgrâce menace et elle sera rapide, d'autant que la régente Marie de Médicis s'engage dans une politique de dépenses effrénée en faveur de la noblesse. Le 26 janvier 1611, Sully démissionne alors de la surintendance. S'il espère secrètement que la reine la refuse, il en est pour ses frais. Sa démission est acceptée. Sully ne part pas les mains vides et reçoit 300 000 livres d'indemnité, mais il part. Sully vient à peine de passer la cinquantaine. Il aurait pu servir le royaume encore longtemps, et il le sait, mais le retour en grâce qu'il espère ne viendra jamais. Retiré sur ses terres et passablement désœuvré, celui qui restera jamais le plus grand ministre d'Henri IV s'occupe en gérant une richesse d'autant plus considérable qu'il est parti de peu et qu'il a construit sa fortune au fil de ses années de pouvoir. Alors oui, ses ennemis s'en sont amusés, certains ont voulu faire de lui un Fouquet avant l'heure. Mais cette fortune vient avant tout des charges qu'on lui a confiées. En 12 ans, Sully a reçu du roi jusqu'en 1610 plus de 2,3 millions de livres, des sommes dont il a tenu un rigoureux décompte justifiant chaque dépense. C'est beaucoup, mais c'est peu en comparaison avec la fortune d'un Mazarin qui avait amassé 38 millions de livres à sa mort en 1661. À peine peut-on ironiser sur le fait que ce protestant convaincu n'a pas renoncé à toucher les bénéfices de la douzaine d'habits catholiques reçus du roi, non sans un peu de malice peut-être de la part du souverain. En bon huguenot, Sully vit presque modestement pour un homme de son rang. Pas de banquets somptueux, pas de maîtresses, pas de jeux de hasard, peu d'œuvres d'art, peu de dépenses, en dehors de ses haras et de ses jardins. La retraite qu'il occupe en travaillant à ses mémoires aux côtés de sa seconde épouse, Rachel de Cochefilet, est certes dorée, mais elle n'est pas décadente. Pour s'occuper, Sully se lance surtout dans la rédaction d'une œuvre aussi monumentale que difficile à digérer, Les économies royales, un texte qui tient tout autant de l'autobiographie que de la chronique d'un règne ou du miroir des princes. Laurent Avzou a récemment montré ce que cet autoportrait a d'excessivement flatteur et parfois même de mensonger. Lorsque Sully prête au défunt roi ce qu'il appelle le grand dessein, une sorte d'embryon d'Europe unifiée dans le cadre d'une confédération chrétienne de 15 États catholiques, l'idée est à prendre avec des pincettes. Sully, qui n'hésite pas à prendre ses aises avec la réalité, travaille autant à la gloire d'Henri IV, le roi préféré des Français, qu'à la sienne propre. Retiré sur ses terres, Sully meurt à l'âge avancé de 82 ans, le 22 décembre 1641, un an à peine avant Richelieu. Le règne de Louis XIII, qui a fait de Richelieu son Sully, lui est comme qu'il irait passer sous le nez. Sully n'a jamais retrouvé de charge à la hauteur de ses ambitions et de ses compétences, mais sa légende est en marche. La légende est puissante, patiemment construite par Sully lui-même et relatée depuis dans la culture populaire. Sully forme une sorte de couple avec Henri IV dans la mémoire collective. Le bon roi Henri incarne la bienveillance, la poule au pot, l'éternelle verdeur et une forme de galanterie chevaleresque, un rien excentrique. Avec sa calvitie, sa barbe blanche et son costume noir et sobre, Sully représente à contrario une forme de rigueur, de vigilance et de morale dans la raison d'État. Alors qu'il avait 6 ans de moins que le roi, c'est à lui que revient le rôle du sage dans un duo qui fonctionne en quelque sorte par son équilibre et qui tient du mythe. Mais comme le rappelle Laurent Avzou dans la biographie qu'il consacre à Sully et dont on va parler dans un court instant, un mythe ne ment pas nécessairement. Il exagère, il altère, il édulcore, mais il n'est jamais entièrement faux. Aussi, l'héritage de Sully est-il incontestable. En accumulant les charges, en pesant sur toute la politique du royaume, il annonce d'une certaine manière déjà la place écrasante que prendront bientôt les grands ministres des règnes suivants, Richelieu et Mazarin en tête. Sully a accumulé les charges, mais attention, Sully n'occupa pourtant jamais la place écrasante d'un Richelieu. Henri IV en a fait son premier serviteur, certes, mais sans jamais lui confier le plein exercice du pouvoir. Sully est resté la créature de son maître, un serviteur loyal et efficace, le premier sans doute, mais certainement pas le seul. Sully est essentiel, mais il n'est pas indispensable. Sa disgrâce en est la meilleure preuve. À la minute où Sully perd son maître, il perd tout. Si le portrait du conseiller intègre, tempérament et vertueux n'est pas faux, Sully ne se résume pas à ce personnage de mentor qu'on imagine, soucieux de protéger le roi des flatteurs et des courtisans. Maximilien de Rosny, duc de Sully, est plus complexe que cette image d'Épinal, mais sa place aux côtés du roi est d'abord celle d'un fidèle, dévoué, loyal et compétent. Serviteur du roi, il n'a jamais marché sur ses plates-bandes pour autant, conscient de sa place et de son rang, celle d'un homme d'épée, doublé d'un homme d'État.
Europe 1, historiquement vôtre.
Laurent Avzou, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Laurent, pour reprendre vos mots que je citais à l'instant, un mythe ne ment pas nécessairement, il exagère, il altère, il édulcore. Vous en avez pris la mesure en vous plongeant dans la vie du duc de Sully?
Oui, parce que l'écart est très important entre ces réalisations concrètes et l'écho qui nous en est parvenu. Un écho qui a mis du temps à parvenir d'ailleurs, parce que c'est seulement au milieu du XVIIIe siècle que Sully a été redécouvert par les physiocrates qui étaient des adeptes du primat de l'agriculture et qui ont voulu voir en Sully un précurseur. Alors que, comme je l'ai dit précédemment, Sully est un financier, un bâtisseur, un artilleur, mais il n'a rien d'un ministre de l'agriculture. Et c'est une dimension qui a été mise en exergue dans sa personnalité et qui a été reconduite comme telle à plusieurs moments de l'histoire. La Restauration, sous les règnes de Louis XVIII et de Charles X, est férue de Sully, qui apparaît à ce moment comme un reconstructeur de la France. Et plus curieusement encore, le régime de Vichy, la terre, elle, ne ment pas, a voulu faire de Sully une autre manière de précurseur, parce que le tricentenaire de sa mort tombait opportunément en 1941. Ça arrangeait le régime de Pétain.
Mais qu'est-ce qui, dans le destin de Sully, a été le selon vous, le plus édulcoré jusqu'ici?
Cette dimension agricole a été surhaussée. À l'inverse, c'est ce que je me suis efforcé de mettre en avant dans ma biographie, la dimension de Sully comme mécène, protecteur des arts et des lettres, a été considérablement minimisée par le personnage lui-même, qui affecte dans ses mémoires de considérer que tout ce qui touche au culturel et à l'esthétique, ben ce sont des fanfreluches, hein, qui sont indignes de considération pour un serviteur de l'État, bien qu'en réalité Sully ait beaucoup contribué par l'aménagement de ses lieux de pouvoir ou par la protection qu'il diffuse aux poètes et aux écrivains à construire une politique culturelle de l'État.
Laurent Avzou, dans la biographie de Sully que vous publiez aux éditions Talendier, vous écrivez qu'il était d'abord une créature qui, je vous cite, s'était donnée dès l'âge de 12 ans, en 1572, au futur Henri IV. Pourquoi ce terme de créature ?
Une créature, c'est un mix de fidélité, le mix du fidèle, celui qui en effet s'est dévoué à un plus puissant que lui dont il attend des gratifications mais auquel il doit un dévouement sans faille, et Sully a d'abord été un fidèle. Il est devenu une créature parce que à partir du moment où Henri IV s'est aperçu qu'il arrivait à donner des solutions simples et pragmatiques à des problèmes immédiats, il s'est révélé d'une compétence sans faille. Créature, c'est la fidélité plus la compétence. Et à ce titre, il ne devient une créature d'Henri IV que à partir des années 1596-1598.
En 1589, le protestant Henri IV hérite donc du trône de France, plongeant le royaume dans une nouvelle période de troubles. C'est Sully qui va conseiller au roi de se convertir au catholicisme 4 ans plus tard. Lui n'abjure pas sa foi, cependant, vous écrivez que ça... relation au protestantisme est problématique et fluctuante. Expliquez-nous, pour quelles raisons ?
C'est plus exactement aux protestants qu'au protestantisme qu'il a une relation conflictuelle. Sully est un calviniste orthodoxe. Il n'a jamais failli dans sa foi. Peut-être a-t-il été tenté de l'abjurer quand Henri IV lui a fait miroiter le poste de connétable de France, mais rien ne permet de l'attester. Donc Sully adhère à tous les principes de la foi calviniste. Il n'a jamais pu être suspecté à ce sujet. En revanche, et c'est en cela qu'il apparaît comme un précurseur de Richelieu, il se méfie du protestantisme en tant que force sociopolitique. Le dogme centralisateur qu'il mène le conduit à se méfier des velléités contestataires des chefs protestants, qu'il va constamment combattre pendant le règne d'Henri IV, même s'il cherchera à se rapprocher du parti politique protestant après la mort de son protecteur.
Peut-on jauger la popularité de Sully durant le règne d'Henri IV ? Que savait le peuple de l'action de ce ministre intègre à une époque où les informations ne circulaient pas comme aujourd'hui ? Évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Non, en effet. Mais si on s'en tient aux rares échos qui nous en sont parvenus, par le biais de pamphlets, de feuilles volantes, voire de gravures satiriques, Sully excellait dans l'art de se faire haïr. De la part des grands du royaume, c'est une certitude, parce que la plupart des nobles titrés qui entourent le roi passent leur temps à se plaindre de la pingrerie de son surintendant des finances qui leur dispute les rentes auxquelles ils croient avoir droit, un droit natif. Voilà. Mais de toute évidence, Sully n'a pas eu bonne presse aussi auprès des masses populaires. Il y a plusieurs échos qui nous rapportent que, au temps de sa superpuissance des dernières années du règne d'Henri IV, plusieurs pamphlets le prophétisent qu'il va bientôt pendouiller au gibet de Montfaucon et aimerait bien le voir pendu à un de ces arbres, un de ces ormes qu'on surnomme les Sully et qu'il fait planter le long des routes du royaume.
L'ascension de Sully est fulgurante. Vous le qualifiez d'ailleurs, Laurent Avzou, de travailleur acharné et de cumulard de première. En effet, à partir de 1598, il est investi de nombreuses charges publiques. J'en cite quelques-unes pour les auditeurs qui nous rejoignent. Surintendant des finances, grand voyer de France, voyer particulier de Paris, surintendant des fortifications, grand maître de l'artillerie. Certains envient-ils cette omniprésence ? Certains voudraient la chute parce que par simple jalousie aussi, c'est possible.
Oui, la jalousie était un fort aiguillon de l'aversion envers Sully, mais elle s'est manifestée assez tardivement dans sa carrière. Vous l'avez rappelé d'ailleurs que jusqu'en 1605 au moins, Sully est un conseiller d'Henri IV parmi d'autres, et il n'est pas nécessairement le plus important. Le roi est très proche, par exemple, de son connétable, le duc de Montmorency. Il y a aussi le chancelier Pomponne de Bellièvre qui a la haute main sur la justice, et secrétaire d'État Villeroy qui est le véritable maître de la guerre et des affaires étrangères. Mais à partir de la disgrâce de Bellièvre, en particulier, en 1605, Sully apparaît de plus en plus comme une manière de premier ministre informel. Donc c'est à partir de 1605 que Sully commence à susciter des réflexes de rejet du même acabit que ceux qui conduiront à la chute de Fouquet en 1661. Mais ce sort lui sera épargné.
Une chose tout de même, on doit à Sully d'avoir redressé les finances du royaume après cette période troublée. On parlait d'un excédent budgétaire en 1605. Personne lui en sait gré.
Tout le monde est d'accord pour reconnaître à Sully une compétence dans la gestion des finances et les vertus d'un travailleur acharné. Même si les ennemis qui ont la dent la plus dure contre lui confessent que c'est un laborieux. Mais n'allons pas imaginer justement que le labeur est une vertu dans le milieu social dont Sully est originaire, hein, la noblesse d'épée, et où au contraire on se fait gloire de pratiquer l'oisiveté et de n'en sortir que pour manier les armes. Alors ce qui aux yeux par exemple des manuels scolaires de la Troisième République sera son grand mérite d'être un travailleur qui donne l'exemple aux petits écoliers n'était certainement pas à mettre à son crédit au début du XVIIe siècle. Bon, économiser c'est bien, mais enfin la vertu nobiliaire par excellence est la prodigalité, dépenser sans compter. Alors on peut comprendre qu'il y a un décalage entre notre perception positive de Sully actuellement et la relative indifférence dans laquelle ses exploits financiers plongeaient ses contemporains.
Laurent Abzu, le 14 mai 1610, c'est un géant roux répondant au nom de Ravaillac qui va stopper de net l'action conjointe d'Henri IV et du duc de Sully. Quels étaient leurs projets pour le royaume avant l'attentat ?
Ils étaient démesurés et on l'oublie souvent. La veille de son assassinat, Henri IV s'apprêtait à partir en guerre contre les Habsbourg, dont les terres encerclent à ce moment la France, aussi bien du côté de l'Espagne que de l'Allemagne et de l'Italie. Et cette guerre s'annonçait comme quelque chose de total. En fait, par anticipation, c'est la guerre dans laquelle Richelieu va plonger la France 25 ans après pour desserrer l'étau dans lequel la maison d'Autriche enserrait le royaume de France. Les armées étaient prêtes, Sully avait fourbi ses réserves d'artillerie, il était sur le point vraisemblablement de prendre le commandement général des armées du roi, et tout ça s'effondre du fait de l'assassinat d'Henri IV. Mais c'est important à souligner parce que si cette guerre avait bien eu lieu, on garderait peut-être un souvenir beaucoup plus mitigé du règne d'Henri IV le pacificateur, qui serait devenu le belliqueux de ces dernières années.
Absolument. Mais sait-on comment Sully a vécu la mort du roi et son état d'esprit finalement?
Ah ben, il l'a vécu très mal, et vous l'avez d'ailleurs rappelé, il a flanché sur le moment, hein. C'est de toute évidence, il a cédé à l'affolement et à la hantise d'être assassiné dans la foulée de son maître, ce qui est une bonne manière de suggérer d'ailleurs la très haute importance, hein, qui s'attribuait auprès d'Henri IV. Et puis, il est vite revenu de sa confusion et est allé offrir ses services à la régente Marie de Médicis, mais voilà, cette fluctuation nous rappelle que Sully était l'homme de son roi avant d'être le serviteur de la France, et que la rupture du contrat par extinction d'un des deux contractants faisait qu'il ne se sentait pas automatiquement obligé envers les nouveaux gouvernants. Mais à partir de ce moment, il va cultiver le souvenir d'Henri IV avec, on pourrait presque dire, dévotion pendant les 31 années qui lui restent encore à vivre.
Sully est l'un des premiers fidèles d'Henri IV, leur relation débute pendant leur jeunesse. Que nous raconte le contenu des lettres qu'ils échangeaient, qui nous sont parvenues, du lien qui les unissait? Dans votre biographie, vous parlez d'affection, Laurent Abzu.
Incontestablement, si on analyse ces lettres sur le temps long, on voit qu'il y a dans les formules de politesse qu'ils s'échangent, et notamment celles qu'Henri IV adresse à Sully, un glissement progressif. Hein, le fidèle parmi tant d'autres qu'était Sully, celui-ci prend la stature d'un véritable ami. C'est l'épithète que lui adresse Henri IV, mon ami, à partir des années 1604-1605. Elle n'est pas si courante que cela sous sa plume, et on voit bien que une affection mutuelle s'est constituée progressivement, alors que elle n'était pas inscrite dans la relation de clientélisme qu'ils avaient enclenchée alors qu'ils étaient encore dans le cas de Sully en tout cas, à peine un adolescent en 1572, quand il va rencontrer le futur Henri IV.
Et le roi est mort, vive le roi, alors qu'Henri IV meurt sous les coups de Ravaillac, son jeune fils Louis XIII, 9 ans, hérite de la couronne. Sully, lui, se retire, contraint et forcé, je l'ai raconté, mais quelle relation entretiendra-t-il avec le nouveau roi, Louis XIII, fils quand même de son ami Henri IV?
Alors, Louis XIII, de toute évidence, avait une réelle affection pour Sully. On peut imaginer qu'il a accédé à l'âge de raison dans les années de toute puissance du ministre. Il a 9 ans à la mort d'Henri IV. Et nous avons le témoignage de son médecin Héroard, qui nous rapporte que le petit roi a été fort marri, je cite, d'apprendre que Sully avait donné sa démission de surintendant des finances en janvier 1611. Pour autant, Sully a eu un court épisode de rébellion vis-à-vis de Louis XIII en 1615-1616, sans dommage pour la royauté, à une époque où il trouve opportun de se rapprocher du parti protestant. Donc ça confirme encore une fois que le vieux ministre ne se sentait pas intrinsèquement lié au sort de la monarchie, mais qu'il restait un héritier de l'époque féodale où les liens d'homme à homme prédominaient sur le dévouement à la chose publique. Quoi qu'il en soit, quand en 1617, Louis XIII rappelle, après s'être débarrassé de Concini, un certain nombre des ministres de son père et que Sully ne fait pas partie du lot, celui-ci comprend que son heure est passée.
Oui. Et est-ce qu'il existe une continuité entre l'action de Sully et d'Henri IV et Richelieu avec Louis XIII?
Comme vous l'avez rappelé, Sully a vu tout le gouvernement de Richelieu. Il est mort moins d'un an après le cardinal ministre, et il a pu s'apercevoir que sur bien des points, celui-ci s'était engagé franchement dans les chemins que Sully avait commencé à débroussailler. Comme par exemple la réduction à l'obéissance du parti protestant, que Richelieu va achever après le siège de La Rochelle en 1628. Et puis, l'un comme l'autre sont de grands centralisateurs. Même si Sully n'en fait pas une fin en soi, il a préparé le durcissement de la notion d'État royal, par exemple en rabaissant le rôle du ministre de la Justice, du chancelier, au profit du surintendant des Finances. C'est ce que fera Colbert au détriment du chancelier Séguier 50 ans après. Donc même au-delà de Richelieu, il y a une continuité entre Sully et l'attitude du gouvernement personnel de Louis XIV.
Alors, on parlait tout à l'heure du mythe Sully, lié notamment à tout ce qu'il raconte de lui dans ses mémoires. Il parle aussi beaucoup du roi Henri IV. Quelle influence ses écrits ont-ils sur la mémoire posthume du bon roi Henri?
Elle est énorme. Dans une large mesure, cette légende, pas seulement bien sûr, mais tout de même largement, est une construction des économies royales, donc les mémoires de Sully. Faut le rappeler d'ailleurs, alors le terme économie est trompeur, ça veut dire simplement une conduite sage, le règlement des affaires, ça n'a rien à voir avec l'économie et les finances. Voilà. Mais le titre exact de ces mémoires, « Mémoires des sages et royales économies d'État », du roi Henri IV, nous rappelle que c'est au roi que Sully rapporte ses mérites. Lui, il se rencogne dans la deuxième partie du titre en parlant des servitudes obéissantes qui se rapportent aux serviteurs dévoués qu'il a été. Donc, de lui-même, Sully se place en position subalterne par rapport à Henri IV et rappelle encore une fois qu'il n'a agi qu'autant que le grand marionnettiste royal lui permettait de le faire. Mais il a beaucoup fait pour la construction de la légende du règne d'Henri IV comme un âge d'or et un âge réparateur après les guerres de religion dans l'histoire de la France.
Mmh. Le duc de Sully a amassé une importante fortune, ce qui lui a permis d'acquérir des terres. Et quel patrimoine laisse-t-il? Alors, pour marcher sur ses pas, évidemment, on peut aller dans l'Eure-et-Loir, au château de Villebon, notamment. et sa dernière demeure est dans la petite chapelle magnifique de l'église Notre-Dame de Nogent-le-Rotrou. Mais au fond, quel est son patrimoine ?
Ben, on peut compléter le cheminement par une route Sully qui conduirait de Villebon au château de Sully-sur-Loire, dans le Loiret, à celui de Rosny-sur-Seine, à l'ouest de Mantes-la-Jolie. Et puis, je proposerai une petite échappée belle vers la ville nouvelle d'Henrichemont, que Sully a fait bâtir de toutes pièces dans le Berry, donc elle se trouve dans le département du Cher actuellement. Enfin, ville, ça n'est même pas justifié, puisqu'elle est en dessous du seuil des 2000 habitants à l'heure actuelle, elle n'en comporte que 1795, mais Henrichemont, donc qui est un jeu de mots sur le nom de c'est la riche montagne du roi Henri, est une ville au plan pré-programmé, qui là aussi est une anticipation de la ville nouvelle que Richelieu, ville éponyme d'ailleurs, fera bâtir dans le Poitou 25 ans après.
Alors pour terminer, Laurent Vzou, on impute à Sully la célèbre formule « labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France ». C'est vrai que cette formule résonne aujourd'hui après le salon de l'agriculture et la crise agricole.
Oui, c'est un Sully très agrarien qui apparaît à travers cette formule. Mais rappelons encore une fois que s'il l'a bien écrite dans les Économies royales, c'était avant tout pour rappeler que l'agriculture et l'élevage doivent agir comme deux forces complémentaires, et que d'autre part, en effet, si on rajoute à labourage et pâturage la fin de la citation, ces vraies mines et trésors du Pérou, ça signifiait surtout la défiance qu'avait Sully envers les entreprises coloniales, notamment au Canada. Ça a été l'un des rares points de
diffraction
entre lui et le roi.
Mais merci beaucoup Laurent Vzou de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du duc de Sully. Je rappelle que votre livre Sully, bâtisseur de la France moderne, est disponible aux éditions Talendier. Merci beaucoup Laurent Vzou.
Merci à vous.
Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.